Il est 23h09 sur Europe 1 et vous pouvez nous appeler au 739-21 suivi du mot... Non, nous écrire au 739-21 suivi du mot « nuit » écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous avez beaucoup réagi au 739-21, bien évidemment, par rapport au témoignage de Léa, Patrick Leroutier, Isa, Mijot. Je suis vieille et je vous adore, mon petit Olivier. Que vivent nos petits frères, les animaux. Isabelle, au lieu de me cogner et de me rendre invalide, j'aurais préféré que mon mari se défoule sur un sanglier, signe Isa. Voilà. Vous êtes nombreux, je cite deux SMS qui veulent en dire beaucoup sur ce que vous pensez de la chasse et de certains comportements de chasseurs. On accueille Anne-Laure maintenant au 39-21. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir, merci Bonsoir. De m'accueillir à l'antenne.
Je vous en prie, quel âge avez-vous Anne-Laure et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 40 ans et j'appelle de Niort dans les Deux-Sèvres.
D'accord, qu'est-ce qui vous amène ma chère Anne-Laure?
Je voulais parler ce soir avec vous d'un sujet sensible, le sujet du deuil d'enfant. Parce que, en tant que parent, ayant vécu cette épreuve, je trouve important de faire savoir à tout le monde qu'un parent endeuillé est déjà dans la peine et que souvent, on se retrouve esselé dans ces mouvements-là. Parce que la mort fait peur et parce que la mort d'un enfant fait encore plus peur. Mmh. C'est pas dans l'ordre des choses. Et je voulais partager ce soir avec les auditeurs le fait que il faut oser parler en fait, il faut lever les tabous et il faut libérer la parole.
Parce que vous avez ressenti, vous avez vécu vous-même donc la perte d'un enfant.
Tout à fait. Donc, moi, le 3 juin 2018, j'ai donné naissance à un petit garçon qui était trop petit pour vivre.
Ouais.
Donc, c'est ce qu'on appelle une naissance sans vie. Donc, Arthur est né sans vie. Et de ce jour-là, on est devenus parents. Hein. Moi, c'était mon premier enfant. Mon compagnon en avait déjà deux. Mais on était des parents sans enfants, en fait. Et ça... Ça déjà, on était dans la peine, hein. On était vraiment dans la souffrance. On a été bien accompagnés par des soignants qui étaient tout à fait compétents et formidables. Après, l'entourage, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire et pas quoi dire et qui, au final, sont des absents dans ces moments où on a besoin de soutien.
Alors, c'est un sujet bien évidemment difficile à évoquer, Anne-Laure, délicat. Vous voulez aborder tout de suite l'entourage et justement ces personnes qui ne sont pas là, qui parce qu'on peut parler de ça tout de suite, mais peut-être je pense qu'on peut peut-être parler de vous avant en tant que parent.
Tout à fait.
Et on reviendra à ces personnes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces personnes et on verra que ça n'est pas spécialement évident. Pour les personnes de réagir face à la mort d'un enfant, face au cycle naturel qui s'inverse, et que c'est souvent délicat, et que les uns et les autres gèrent ce genre de problématiques différemment. Et certains, parfois, préfèrent rester dans le silence par peur d'être indélicat, et parce qu'ils ne savent pas quoi dire, parce que ça les fauche aussi quelque part dans leur conception des choses. Mais on y reviendra. D'abord, parlons de vous, jeunes parents, parce que vous aviez... c'était il y a combien de temps, vous m'avez dit?
Alors, c'était en juin 2018. Donc, ouais. Ça fait maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans.
Mmh.
Donc, mon compagnon a déjà 2 enfants, lui. Et nous avons longtemps désiré cet enfant. Est fini par arriver. Et voilà, c'est une grossesse qui s'est interrompue sans prévenir, en fait. Il y avait des petits signes que maintenant, je me dis, mais évidemment, ça pouvait pas bien se passer, mais le corps médical, tout le monde me disait, oh, bon, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Bon. Et puis, il y a des grossesses qui se passent bien, même avec ces signes-là. Et le fait est qu'un beau jour, Arthur a décidé... c'est mon corps qui a décidé, en fait, qu'il ne pouvait pas faire tenir cette grossesse parce que, mécaniquement, il n'en était pas capable. Donc, la vie s'est interrompue brutalement pour Arthur. Et, Et il nous a quittés le 3 juin 2018.
Alors, au-delà du choc, d'abord, comment est-ce que vous avez vécu tout cela? Comment est-ce que vous avez été accompagnée et par qui, surtout?
Alors, on a eu la chance de rencontrer des gens formidables. Dans un premier temps, bien sûr, on est passé par l'étape de sidération. On ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Et puis, on a été très rapidement pris en charge par les cadres de santé de l'hôpital de Niort qui nous ont vraiment accompagnés dans toutes les démarches administratives et dans les démarches de sépulture pour notre bébé. Puis est venu le temps de l'accompagnement, je dirais, paramédical, puisque c'est ma formidable sage-femme, Laureline, qui m'a reçue, qui m'a écoutée, qui m'a vue pleurer, qui m'a prise dans ses bras. Et puis, j'ai eu la chance, sur Niort, de pouvoir trouver un groupe de parole, un groupe de parents qui avaient tous traversé cette épreuve-là. Et qui était... moi, ça a été ma bouée de sauvetage, en fait. Voilà, on était là pour se soutenir les uns des autres.
C'est une chance que vous ayez pu trouver un groupe de parole sur Niort, parce que ça n'existe pas partout, me semble-t-il.
Voilà. Donc, on a eu la formidable expérience de faire partie de ce groupe. Et moi, j'en ai eu besoin. Mon compagnon, lui, est passé par d'autres cheminements pour se rétablir, on va dire. Et pour le coup, moi, je pense que sans ce groupe, j'aurais pas remonté la pente comme j'ai pu le faire. Mmh. Alors, bien sûr, il y a eu aussi un accompagnement psychologique par ailleurs. Et voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir été accompagnée dans une nouvelle grossesse qui a été compliquée pour les mêmes raisons qui ont abouti à la naissance prématurée d'Arthur. Mais on est les heureux parents d'un petit garçon plein de vie, Axel, qui aujourd'hui a 2 ans et qui fait notre joie. Et pour autant, Arthur fait partie de la famille, il est avec nous tous les jours.
Mmh. Vous en parlez à votre petit aujourd'hui qu'il a eu un petit frère, enfin un grand frère plutôt?
Alors, c'est encore très très abstrait pour lui.
Quel âge a-t-il?
Il a 2 ans.
Oui,
il a 2 ans, donc bon, c'est compliqué. Néanmoins, à la maison, on a plusieurs choses, plusieurs petits lieux qui nous parlent d'Arthur. On a les petites empreintes d'Arthur qui sont affichées dans la maison, qu'on regarde de temps en temps. On a une boîte aussi, souvenir, où on a mis les choses qui lui appartenaient, les photos d'échographie,
Alors,
de nos naissances.
Je crois que vous avez évoqué avec Florian aussi quelque chose qui, moi, me semble très important. Lorsqu'une grossesse est interrompue au bout de 5 mois, 6 mois, voire 7 mois, ce qui est le cas de votre petit, votre cas à tous deux parents, c'est la reconnaissance administrative, parce que cet enfant, il a existé. Comment ça s'est passé pour vous? Comment est-ce que vous avez ressenti qu'on allait traiter la chose si, alors je l'ai vu sur votre fiche, si vous n'aviez pas bouger et si vous n'aviez pas trouvé une personne qui vous aidait là-dessus. Comment est-ce que vous avez senti que ça allait se passer?
En fait, on s'est rendu compte que sans reconnaissance de paternité anticipée, notre enfant n'aurait pas pu être inscrit dans le livret de famille de mon compagnon. Moi, j'aurais été reconnue comme maman, mais lui n'aurait pas eu la reconnaissance de papa. Et par ailleurs, ma déclaration de grossesse, le hasard fait qu'elle a été perdue. Et donc, si vous voulez, la caisse d'allocation familiale, par exemple, ou bien la sécurité sociale n'ont aucune trace de cette grossesse. Donc, en fait, Arthur n'existe pas juridiquement et administrativement. Et ça, c'est profondément injuste. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait partie des choses que moi, je voudrais faire reconnaître, parce que un enfant disparu, c'est un enfant qui existe, en fait. C'est un enfant qui est là, qui a été. Et le fait qu'il n'existe nulle part, peu importe l'âge auquel il soit décédé, en fait, c'est vécu comme un crève-cœur par les parents.
Oui, c'est un... Et donc, en fait, je n'ai pas très bien compris. Votre mari a pu reconnaître l'enfant?
Oui. Alors, en fait, on a eu la chance de tomber sur un officier d'état civil qui, lui, a... était profondément choqué par le fait qu'il ne puisse pas reconnaître l'enfant et qui donc a pris sur lui de passer outre les règles et qui a dit « je prends sur moi de l'inscrire dans votre livret de famille commun pour que le papa soit reconnu comme papa et la maman comme maman et que vous ayez votre enfant avec vous dans le livret de famille ». On a eu la chance de tomber sur quelqu'un de formidable. Mais beaucoup d'autres parents n'ont pas eu cette chance.
Je crois que vous vous battez pour ça aujourd'hui, pour que ces enfants qui partent avant ou par mort à la naissance, on puisse proposer qu'ils aient une sépulture ou une crémation collective, mais en tout cas qu'on les considère comme des êtres à part entière.
Oui, alors c'est deux sujets en fait. Il y a le sujet de la reconnaissance administrative, quel que soit l'âge de l'enfant décédé ou qui est né sans vie. La deuxième chose en fait, c'est que, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les autres hôpitaux en dehors de celui dans lequel moi j'ai donné naissance à Arthur, il se trouve que une heure après la naissance d'Arthur, on nous a demandé si on voulait que cet enfant il ait une sépulture dont on s'occuperait nous, ou bien si on chargeait l'hôpital de ses cendres, en fait. Et donc, on nous proposait une incinération collective. Mais la contrepartie de ça, c'était que, en fait, on attendait d'avoir un certain nombre de fœtus à incinérer. Donc, c'était une crémation collective sans possibilité ni d'assister à la crémation, puisqu'on ne connaîtrait pas la date, ni possibilité de récupérer les cendres pour aller les disperser où on voulait, ni possibilité de pouvoir être là au moment des dispersions qui se passeraient dans le jardin du souvenir à Niort. Alors ça, c'était quelque chose qui était absolument intolérable pour nous en tant que parents. C'était imposé à nous qu'il fallait qu'on organise quelque chose.
Oui, bien sûr.
Donc on a eu le soutien de nos familles qui nous ont aidés à concrétiser cette sépulture. Maintenant, une sépulture, ça a un coût, ça s'organise et c'est compliqué. On n'a pas forcément les ressources dans ces moments de peine et de deuil pour aller au bout des démarches. Et moi, je ne comprends même pas en fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement mieux pensé pour les familles qui sont déjà dans un deuil terrible. Enfin, on ne peut pas prévoir. Personne ne souscrit une convention obsèque pour un bébé qui n'est pas encore né ou bien pour un jeune enfant. Ça ne se fait pas, quoi. Donc voilà. Voilà. Moi, ça quelque chose vraiment qui a posteriori me heurte encore.
Je comprends. Vous avez cité l'existence de deux enfants de votre mari qui attendaient un petit frère ou une petite sœur. Comment est-ce que ça a été vécu par eux ?
Eh bien, alors sur les deux enfants, il y a une ado qui aujourd'hui a 15 ans, qui à l'époque en avait
15.
14.
Oui, 14.
Pardon,
oui, 15.
Non, aujourd'hui elle a 15 ans, donc il y a 3 ans, on en avait 12.
Oui,
ça a été compliqué pour elle, ça a été bien sûr très très compliqué. Elle n'a pas compris ce qui lui arrivait, comme à nous. Enfin, voilà, c'était un enfant qui était attendu, dont on avait beaucoup parlé. Ça a été difficile pour elle. Aujourd'hui, elle a encore du mal à en parler. Alors, voilà, on sait que la boîte d'Arthur est régulièrement visitée. On voit qu'elle bouge. On voit que quelqu'un va consulter tous ces petits souvenirs. Pour le deuxième enfant, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un enfant qui est porteur du handicap, un handicap assez lourd, donc il n'a pas vraiment conscience qu'il y a un bébé qui devait arriver et qui n'est plus là, quoi. Donc lui, bon, voilà, c'est beaucoup plus abstrait. Mais aujourd'hui, voilà, chez nous, moi je porte le tatouage d'une petite plume, c'est mon bébé plume, c'est mon bébé qui n'est pas là et il est visible de tous. Et le jour où quelqu'un me pose la question, j'ai aucun problème pour dire à quoi correspond ce tatouage. Donc il est visible à tout moment, par tout le monde.
Alors on va évoquer les proches, en tout cas les proches et les moins proches, famille, amis, parfois d'ailleurs des amis. On s'aperçoit que des amis sont beaucoup plus proches et beaucoup plus rassurants, en tout cas qu'ils ont un rôle plus important que la famille. Qu'en était-il pour vous ? Est-ce que vous évoquiez dans vos échanges avec Florian que ça a été assez compliqué, visiblement, pour vous ?
C'est vrai que, en fait, on se retrouve rapidement seul et On se rend compte que les gens marchent sur des œufs, n'osent pas poser des questions qu'on pose tous les jours. Est-ce que ça va? De peur de réveiller des souffrances. Et les amis qui se révèlent être des vrais soutiens, il y en a, bien sûr, c'est des jolies surprises. Après, il y en a d'autres qui préfèrent rester dans la réserve. Et on les comprend. Moi, je ne jette la pierre à personne. Avant de traverser cette épreuve-là, je n'aurais sûrement pas su comment faire ni quoi faire.
Vous n'aviez jamais été confronté à ce type d'événement avant ?
Malheureusement, enfin, heureusement pour moi, quelque part, j'ai eu la chance d'être préservée de toute forme de deuil. Même mes grands-parents étaient encore là à l'époque, c'est vous dire. Donc moi, c'est vrai que ça m'est tombé dessus. J'ai jamais eu à gérer ce genre de peine. Donc voilà. Et après, on a pu faire un retour avec nos familles en disant, mais en fait, vous n'en parlez jamais. Enfin, nous, moi, ça me peine de qu'on puisse penser que, enfin, qu'on puisse vivre comme s'il ne s'était rien passé. Aujourd'hui, il fait partie de nos vies. Vous pouvez nous poser des questions. Et c'est vrai qu'on a pu discuter à bâtons rompus avec certains membres de la famille avec qui le dialogue est facile et qui nous ont dit ah, bah, c'est compliqué, on ne sait jamais si on ne va pas venir donner un coup de pied dans la béquille qui tient debout. Alors, bon, voilà. Aujourd'hui, moi, le message que je voulais faire passer, c'est en fait, quand on parle avec les parents qui ont vécu un deuil, le plus gros manque, c'est le manque de reconnaissance, en fait. Et c'est le manque de pouvoir parler. Alors, oui, c'est sûr, ça va sans doute faire couler quelques larmes, mais ces larmes, si elles coulent aussi, c'est qu'elles ont besoin de couler.
Allô, vous êtes là ?
Oui, je me suis interrompue parce que je ne savais plus quoi dire à part ça.
Ah d'accord, excusez-moi, parce voilà, que j'ai cru qu'on avait été coupé. J'attendais que vous... D'accord. On va marquer une pause, si vous le voulez bien, Anne-Laure, et puis on va voir qu'aujourd'hui, vous avez décidé de pousser plus loin la réflexion autour de l'attitude qu'on doit avoir, de l'aide qu'on peut porter, de l'attention qu'on peut porter à ces parents qui vivent cet événement. On ne peut pas, je crois, connaître plus douloureux qu'un événement comme celui-ci. Donc, bien évidemment, cette initiative très positive et on va en parler juste après la pause, d'accord ?
Oui, tout de suite. À tout à l'heure.
Il est 23h28, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Nous sommes avec Anne-Laure qui évoque avec nous ce soir la perte d'un enfant et la perte de son fils à 6 mois de grossesse. Anne-Laure se mobilise pour que la parole des parents d'enfants décédés soit plus entendue ou que on puisse s'y intéresser un peu plus. Vous avez dit à Florian... Anne-Laure, que les gens sont réticents à parler de ce type d'événement, qu'il y a une méfiance et qu'ils sont vite embêtés. Vous évoquez un côté un peu pathos et un peu tabou en même temps.
Ouais, c'est ça. Quand on évoque le sujet, en fait, on se rend vite compte qu'il y a beaucoup de tabous autour de ce sujet et que ça met vite les gens mal à l'aise. Alors, beaucoup de gens l'expliquent, enfin, beaucoup de gens avec qui j'ai eu l'occasion de parler expliquent que c'est vrai que ça renvoie forcément à la douleur de perdre ses propres enfants et puis la peur de réveiller chez l'autre des souffrances qui étaient peut-être cicatrisées. Donc, vraiment un sujet qui est important, mais qui est sensible. On sent, quand on va aborder les personnes en leur parlant de notre projet, que c'est sensible. Il y a quelque chose à faire.
Mais vous sentez quoi, en fait ? Parce que vous allez organiser donc une expo.
Oui. C'est
quoi cette expo ? Parlez-moi.
Alors, il se trouve que c'est une exposition photographique qui a été élaborée par une artiste photographe avec 8 familles autour de la perte de l'enfant. Donc, l'idée, c'est de lever les tabous, de libérer la parole des gens qui viendront voir l'exposition et de faire vivre ces enfants, de montrer comment est-ce qu'on a réussi à rentrer en résilience au sein des familles et comment est-ce que ces enfants font partie de ces familles avec, enfin, si, qu'ils soient... Enfin, je ne sais pas comment le formuler, mais En fait, ils sont absents, ils sont présents en même temps, ils sont avec nous, on vit avec et sans eux. En fait, c'est le titre de notre expo, Avec et sans toi, vivre. Et donc, l'idée, c'est aussi de mettre des mots sur l'épreuve qu'est le deuil et faire passer un message d'espoir aux parents qui traversent ça, qui sont dans la peine.
Mmh. J'ai un message d'Ingrid de Marseille qui résume assez bien ce que vous avez dit et ce pourquoi vous vous battez aujourd'hui. Elle vous dit « Bonsoir Anne-Laure, les gens n'aiment pas parler de la mort d'un enfant. Avec le temps, les portes se ferment les unes après les autres. Nous les dérangeons et restons dans la solitude avec des tonnes d'amour brisé en nous. » Voilà. Et c'est un peu ce que vous dites, quoi. Il y a une gêne de la part des gens qui finissent par ouais. ne plus en parler, par faire comme si ça n'avait pas existé. Je crois que c'est ça le pire, en fait.
Ouais. Et pourtant, quand on arrive à déverrouiller juste cette première défense, en fait, on se rend compte que les gens, ils ont terriblement besoin d'en parler et que ça. Et je connais personne encore pour le moment qui m'ait dit. Qui ne m'est pas dit « Ah bah oui, j'ai mon neveu qui s'est suicidé, j'ai le fils de ma voisine qui est décédé dans un accident de voiture » ou bien « L'autre jour, c'était mon pharmacien qui me disait que la dame qui vient faire le ménage chez lui a perdu ses deux petites filles dans un accident de voiture ». Tout le monde, à un moment donné dans sa vie, sera confronté de près ou de loin à cet événement-là. Et moi, ce que je dis aux gens avec qui je peux employer un langage assez cru, c'est « Mais viens voir l'expo, viens ». Et puis, peut-être que tu te sentiras moins démuni ou moins idiot le jour où ça arrivera autour de toi et que tu auras moins de difficultés à pouvoir être dans le réconfort. Donc moi, aujourd'hui, je voulais parler d'un projet, donc l'expo photographique, qui a été monté avec Carole, formidable photographe, qui nous a fait des photos formidables, exceptionnellement belles. Et Valentin et Séverine, qui sont animateurs à la maison de quartier de Gouaze, et qui font vivre nos familles au gré d'une expo, une expo qui voudra voyager, qui, on l'espère, pourra trouver une résonance territoriale, pourquoi pas nationale. Et puis, donc ça commence vendredi, et pendant cette semaine événement autour du deuil d'enfants, on crée deux temps forts, en fait. On a invité un comédien qui joue un seul en scène, qui s'appelle « Tu seras un homme, papa ». C'est Gaël Lesblancs, de la compagnie des 13e. Et je vous invite à aller voir la petite capsule vidéo qu'il a laissée sur YouTube. Vous verrez, c'est poignant. Enfin, moi, j'ai hâte d'y être.
On la trouve comment, cette capsule, dites-moi.
Vous tapez juste le titre « Tu seras un homme, papa ».
D'accord.
Voilà, Gaël Lesblancs, L-E-I-B-L-A-N-G.
On partage sur notre site. Hein,
voilà, pour super. Florian m'a dit qu'il mettrait les liens. Et puis, on organise également une soirée d'échange. Voilà, à bâton rompu, on invite tous ceux qui veulent venir boire un thé, un café, une tisane avec nous pour discuter, pour partager leurs expériences, leurs peines. Et puis, je ne sais pas, peut-être que de là naîtra un projet, un nouveau groupe de parole. On ne sait pas, on verra. Et on est prêt à accueillir tout ce qui se présentera.
En tout cas, bravo pour cette initiative, Anne-Laure, parce que c'est vrai que on manque d'événements comme ça, de créer autour de ces thèmes qui restent très tabous. Et finalement, c'est vrai qu'on a du mal à évoquer le deuil des enfants, la perte d'un enfant. Et je pense que c'est par des initiatives telles que la vôtre qu'on arrivera à comprendre que les premiers concernés, ce sont ces parents qui ont perdu un enfant et qui n'ont pas obligatoirement envie de sentir qu'on est gêné, qu'on ne sait pas comment l'aborder, mais au contraire qu'on peut participer à ce qui va se passer à partir de vendredi prochain et qu'on peut évoquer cette présence. Parce que ces enfants ne sont jamais venus et repartis aussi vite pour rien. Je pense que ces enfants impactent celles et ceux qui les ont aimés le temps qu'ils étaient là. Et bien évidemment, je parle aussi pour ces enfants qui étaient à 6 mois, 7 mois. Ils ont influé sur et influent sur la vie de leur famille pour l'éternité. Je pense qu'il y a un impact certain qui fait que le chemin de vie des uns et des autres s'en trouve renforcé par leur passage. Et que et que vous avez raison de dire qu'ils ont et qu'ils doivent avoir une trace, une existence, en tout cas qu'on doit savoir qu'ils ont existé et qu'on peut l'évoquer aussi avec ses parents et avec ses frères et sœurs, ses grands-parents aussi parfois, qui ont besoin d'évoquer le souvenir de ça et pas obligatoirement dans le pathos ou pas obligatoirement dans la tristesse, mais qu'on peut évoquer justement la force et la lumière.
Oui, et puis juste en passant par des phrases très simples qui laissent une ouverture, une porte ouverte en disant est-ce que je peux t'aider ? Ou est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? Et c'est tout. Si la personne n'a pas envie qu'on l'aide ou à ce moment-là envie d'être seule, eh bien elle reviendra peut-être plus tard. Mais se sentir entourée dans ces moments-là, c'est le plus important pour pouvoir se rétablir.
En tout cas, vous qui nous écoutez, si vous faites partie d'une structure aux quatre coins du pays, vous nous écoutez. Et si vous désirez accueillir cette exposition, ce spectacle, eh bien, n'hésitez pas à nous donner vos coordonnées. Nous vous mettrons en rapport avec Anne-Laure pour que voilà, ce type d'initiative puisse vivre et voyager territorialement parlant, comme dit Anne-Laure. Eh bien, écoutez, bravo et merci Anne-Laure pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, n'oubliez pas de nous donner quelques informations, comment ça s'est passé, tout ça, on aimerait bien savoir. D'accord ?
Super, je vous remercie en tout cas.
Passez une bonne soirée, Anne-Laure, merci.
Merci, au revoir. Aussi. Au revoir.